notre méditation, notre réflexion, notre prédication autour du thème « Servir mon Église locale » qui est donc le thème de cette année. « Servir mon Église locale ». Prendre conscience de la nécessité que une Église, c'est comme une entreprise. On n'y vient pas simplement pour avoir un bon moment ensemble, je veux dire un bon moment d'amitié, de bonnes relations entre les gens, un bon moment de fréquentation en quelque sorte, mais on y vient aussi pour travailler. Parce que le royaume de Dieu, l'Église est un instrument, une ambassade, un outil pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes là aussi pour travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Comment fait-on avancer le royaume de Dieu dans notre monde aujourd'hui? On le fait avancer collectivement, nous tous, d'une manière. En évangélisant. Le royaume de Dieu avance lorsque nous gagnons des âmes à Christ, lorsque des gens se tournent vers Dieu, donnent leur vie au Seigneur. Alors le royaume avance, parce que le royaume a de plus en plus des serviteurs, des moyens pour avancer. Remarquez, la situation occidentale s'est énormément développé dans son système des valeurs, dans son système des lois, dans son système des coutumes, des traditions. La société occidentale s'est énormément développée grâce à la tradition judéo-chrétienne. C'est au nom de Dieu que des cathédrales ont été bâties. C'est au nom de Dieu que beaucoup de choses ont été faites dans l'Occident. Vous savez que toute une époque, l'Occident avait été mobilisé juste pour la cause de Dieu. Ce n'était pas une bonne cause. Enfin, l'histoire nous a révélé après que ce n'était pas une très bonne idée, mais on a été mobilisé pour les croisades. Ils sont allés taper là-bas, à Jérusalem, avec tous les dégâts possibles et imaginables. Mais c'était au nom de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que le royaume de Dieu avance avec les gens qui sont sauvés. Et les gens qui sont sauvés ne le sont que par ceux qui ont été sauvés préalablement. Je suis sauvé, mais mon travail consiste à emmener d'autres aussi à être sauvés, comme j'ai été sauvé. Et là, je fais mon travail. C'est ça, Matthieu. Le texte de Matthieu, la finale de Matthieu qui dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, etc. Enseignez-les, etc. » Nous sommes là, c'est notre tâche. En tant que chrétiens, nous n'avons pas la tâche de « cool man » quoi, se reposer et dire « ok, je fais rien moi ». De toute façon, Christophe, il parle mieux que moi. À quoi ça sert que moi j'aille évangéliser plus que lui, il sait le faire. Il va le faire pour nous deux, hein. Non. Avec ce que je suis en petit, avec le peu que je suis, je peux faire quelque chose aussi. Première tâche principale du royaume de Dieu, collectivement parlant, en tant que serviteur, à quoi est-ce que nous servons? Nous servons à gagner des âmes à Christ. Mais dire ça, c'est facile, hein? C'est quoi gagner des âmes à Christ? C'est juste aller leur parler? Dis, change de vie. Jésus t'aime. Change de vie, t'as entendu? Vous croyez que ça marche comme ça? Hein? Dites ça, essayez d'aller dire ça à votre patron de travail. Chef, change de vie, Jésus t'aime. Va te regarder et dire, c'est le 30e objet à l'ordre du jour de notre travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, je voulais juste vous dire que, voyez, ce n'est pas simplement par nos paroles. Gagner des âmes à Christ, c'est aussi notre façon de vivre. Ma vie va manifester mon amour pour Christ et mon amour pour Christ va témoigner que Christ est vraiment réel, digne d'être aimé, digne d'être respecté, et que c'est un chouette gars qu'il faut que peut-être je puisse apprendre à connaître, puisque lui là, qui le connaît, il a une vie, c'est magnifique, il se passe des choses incroyables dans sa vie. Notre témoignage, notre façon d'être et de vivre. D'où, deuxième travail important, un travail dans l'évangélisation, celui à la fois de connaître ce qu'il faut dire aux autres, mais aussi de mettre sa vie en ordre, de prendre des bonnes habitudes, des habitudes bien chrétiennes, d'avoir des principes bien chrétiens. Je ne commence pas à critiquer les gens, je ne commence pas à calomnier, je ne commence pas à mentir, je ne commence pas à me battre, je ne commence pas à tricher, je ne commence pas à regarder certains films, certaines images pas très recommandables. Je ne commence pas à me mêler des histoires des autres, etc., etc. Il y a plein de principes chrétiens qui se trouvent dans la Bible. Je me mets en phase avec ça. J'arrange ma vie dans ma relation. J'essaie de faire en sorte que les choses soient comme ça se trouve dans la Bible. Afin que lorsque quelqu'un de l'extérieur va aller vérifier dans la Bible pour voir, va dire, mais c'est bizarre, mais c'est comme si tu vivais tout ce qui est écrit dans la Bible. Bien sûr, on ne peut pas nier qu'on peut avoir des faiblesses. Je ne peux pas nier qu'on peut être, on peut tomber dans le péché, qu'on peut se tromper, qu'on peut être dans des situations difficiles, qu'on peut commettre des erreurs. Je ne peux pas juger quelqu'un qui a fait des erreurs. Je ne peux pas juger quelqu'un qui est tombé, qui est dans la souffrance, dans les problèmes, ou qui s'est fouvoyé dans un truc. Je ne peux pas le juger. D'ailleurs, Jésus ne juge pas. Mais nous avons un devoir, un ordre de mission. Ensuite, ça c'est le travail d'évangélisation. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler de ça. Mais je voudrais que nous puissions aborder dans cette question de servir mon église locale, cette question que nous avons abordée qui est « Qui peut servir dans l'église ?» Nous avions vu, la première partie, que ceux qui servent, évidemment, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, qui sont convertis, qui sont engagés pour le Seigneur. Nous avons vu que Dieu attend de la part de celui qui doit le servir, à la fois d'être fidèle, d'être bon, d'être sérieux, de témoigner de l'ardeur dans le travail de Dieu, de ne ménager aucun effort, de faire tout ce qu'il faut, même au prix des sacrifices s'il le faut, pour faire la tâche qui lui est dévolue. Plus tard, nous verrons les différentes tâches qu'on peut faire dans l'Église. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais j'aimerais peut-être aujourd'hui rentrer dans quelque chose de plus subjectif, de plus personnel à chacun, que peut-être nous pouvons tous retenir aujourd'hui. Je vais ouvrir un peu mon cœur à travers le texte, la parabole que nous allons lire, pour simplement que chacun parte avec une réflexion et un questionnement personnel qui peut l'aider peut-être à mieux comprendre qui peut servir l'Église. Qui est-ce que je peux servir? Suis-je dans une position de pouvoir servir l'Église? Si oui, ok. Sinon, ben, voilà des pistes pour me préparer à ça, pour me mettre en route pour le faire. Je le dis et je le répète, Dieu veut que tout le monde le serve. Il n'y a pas de serviteurs attitrés et des gens qui sont juste comme des spectateurs. Ça n'existe pas. Nous servons tous. Pas de la même façon, pas au même moment, pas pour le même boulot, etc. Il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont totalement invisibles. Mais tous, nous servons le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons la lire, l'ouvrir, la lire, la méditer. Mais nous voulons vraiment que tu nous aides par le Saint-Esprit à mieux comprendre ce que nous lisons. Et peut-être, il y a parfois des particularités qui nous sont propres que tu veux nous enseigner. Accorde que nous puissions, oui, Seigneur, saisir cela. Seigneur, fais grâce aujourd'hui encore à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 17, cette fois-ci c'est bon. Plus de matata maintenant, c'est bon maintenant cette fois-ci. Luc chapitre 17, je vais lire le verset 7 au verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand tu reviens des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sains-toi, serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est Jésus qui parle. Et si Jésus parle, on peut prendre très à cœur et très au sérieux ce que Jésus dit. Cette histoire est simple. La parabole ici est très simple. Ce n'est pas compliqué. On peut la résumer en quelques mots. Et j'aimerais que, peut-être à travers cette parabole, mettre en évidence une réflexion. Vous savez, aujourd'hui aussi, le questionnement de Jésus, là, est un questionnement qu'on rencontre dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le commerce, qui est le roi? C'est le client. Aujourd'hui, quand vous allez acheter quelque chose, vous achetez. Vous voulez changer de truc, vous changez. Quand vous voulez. Il y en a qui sont gênés d'appliquer le principe de la royauté en tant que client. Vous voyez, il y a des clients qui vont se gêner, ils voulaient prendre telle chaussure, mais ils n'osent pas redemander l'autre chaussure qu'il a préférée ou essayer. Mais il y en a qui profitent de tous leurs droits en tant que roi. Ils vont faire bouger tout un magasin avec des chaussures. Il va essayer ça. Et la serveuse va venir avec tout. On va essayer. Non, ça ne marche pas. Ça. Et puis, on va chercher un coin. Mais la serveuse ou le serveur n'a pas le temps, ne doit pas dire « Zut alors, j'en ai marre !» Il ne peut pas dire ça. Son boulot, c'est d'exécuter. Point barre. Même si le client change d'avis, point barre. Demandez à ma femme. Ma femme, c'est une cliente, mais qui est une vraie reine. Hein. Elle est une vraie reine. Elle, quand elle veut quelque chose, elle essaye ça. Elle discute, elle pose des questions. Pendant ce temps-là, moi, je fais comme ça. Parce que je suis plutôt de ce genre de roi qui est plutôt gêné, embêté par ça. Mais elle a raison. Le client est roi. C'est un principe. Mais bon, moi, je sais pas, ça m'embête. Mais voilà. Mais dans notre société d'aujourd'hui, nous fonctionnons de la même façon. Le serviteur n'a rien à dire. Quand il a fait son boulot, il n'a rien à dire. Le client est satisfait, il est satisfait. Il n'est pas satisfait, il va se plaindre. Il fait des réclamations. C'est toi. Et toi, on te vire. Hein. Et ton patron ne te dira pas, cette dame, c'est vraiment une mauvaise femme. Toi, tu es gentil, alors toi, tu restes au travail. Non, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? La dame, elle pèse combien? 200 euros qu'elle a fait de commande, d'achat. Et toi, t'as dit quoi? Ah, t'as dit, allez vous faire foutre. Ah, très bien, toi, viré. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. T'es viré. Voyez-vous? C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça que Jésus tente d'expliquer aux serviteurs. T'as pas à te dire, ouais, moi, non, t'as rien à dire. Tu sers. C'est tout. Vous voyez? C'est pour ça que je disais que c'est facile à comprendre. C'est facile à saisir dans notre société d'aujourd'hui. On a les mêmes situations. Ce qui est interrogé ici, ce n'est pas l'attitude du maître. En l'occurrence, pour nous, le commerce, ce qui est interrogé, ce n'est pas l'attitude du client. Ce qui est interrogé, c'est l'attitude du serviteur. Comment doit-il se considérer devant son maître? Comment le serviteur doit-il se considérer devant son maître? Il ne doit pas se considérer comme quelqu'un qui a des droits à exiger, mais comme quelqu'un qui n'a que des devoirs. Le serviteur ne dispose pas de lui et de sa vie. À n'importe quelle heure, le patron arrive, toi, va me préparer à manger, toi, fais ceci, fais cela. Et le serviteur, ben, il le fait. Il est à la disposition de son patron. C'est un esclave. C'est un esclave. Plus que toutes les autres paraboles, cette parabole met bien l'accent sur notre statut en tant que serviteur. Être serviteur, c'est être esclave. Qui peut me définir ce que c'est qu'un esclave? En droit, un esclave est une chose. C'est pas un être humain, c'est une chose. Un esclave, c'est un bien matériel dont on peut disposer. Un esclave, c'est comme une voiture, comme ce meuble, comme mes chaussures. Ce n'est qu'un bien dont on peut disposer à sa guise. Ce n'est pas un humain, un esclave. En droit, c'est comme ça. Je peux le vendre, je peux l'acheter, je peux l'échanger, je peux même le tuer. Ce n'est pas un meurtre de tuer un esclave. Vous savez ça? C'est un instrument au service du maître, comme un bâton qui m'aide à marcher, si j'ai difficile à marcher, ou pour les bergers, pour guider les bêtes. La particularité ici de cet esclave, verset 10, c'est que c'est un esclave volontaire. Ce n'est pas un esclave qui est obligé. Ce n'est pas un esclave qu'on a attrapé au fin fond d'un village à la suite d'une guerre et qu'on a amené dans le pays pour le... Non. Ce n'est pas comme les ancêtres des Noirs américains ou des Noirs des Antilles ou d'ailleurs. Non, ici, c'est un esclave volontaire. C'est à quelqu'un qui choisit d'agir ainsi. Il accepte son statut et le réclame même. Il agit sans contester. Il est un serviteur inutile. Je vous choque, hein. On est des serviteurs inutiles. Inutiles parce que nous ne faisons que notre devoir. Mes amis, je vous ai dit que c'est vraiment une prédication. Je veux juste que nous puissions réfléchir sur ce que c'est qu'être serviteur. Parce que si nous comprenons ce que c'est qu'être serviteur et qu'on le comprend bien dans notre pensée, sur le terrain, on va agir en connaissance de cause. Vous comprenez? Si je comprends mon rôle correctement, je prendrai mes dispositions et j'agirai de la manière correcte. Si je ne comprends pas bien mon rôle, eh bien, je ne ferai que des bêtises. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, une fois, j'ai eu à faire un boulot un jour, un job étudiant. On m'a dit, bon, tu prends les verres là et tu vas servir là-bas. On ne m'a rien dit d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les verres et j'ai été servir. Seulement, quand je suis arrivé là, on m'a rappelé, ah non, 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 non. Ces verres-là, c'est pas à servir ici. Ces verres-là, on doit les servir là-bas. Mais comment je savais, moi? On m'a dit, prends les verres, on va servir là-bas. Nous touchons ici à quelque chose qui est fondamental dans la façon de comprendre qui peut servir dans l'Église. Ce n'est pas seulement celui qui a bien compris ce que veut dire servir, ni celui qui a su développer des qualités propres au service. Ce n'est pas seulement un détenteur d'un beau diplôme de service qui sait comment on nettoie la carpette, comment on range ceci, comment on allume, comment on change. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît, qui a un bagage en termes de connaissance du travail. Non, c'est d'abord et avant tout celui qui a au fond de son cœur, avec beaucoup d'humilité, celui qui, au fond de son cœur, accepte sa position d'esclave, volontaire. Tu veux servir Dieu, sois son esclave volontaire. Son esclave volontaire. C'est quelqu'un qui ne réclame rien, qui n'a pas une trop haute opinion de lui-même. Il ne se considère pas comme le plus important. Il respecte profondément l'ordre de Dieu. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Ok. Dieu a dit qu'il y a un pasteur dans l'église et le pasteur a ça commence. Ok. Dieu a dit que telle personne va faire ceci. Ok. C'est pas lui qui va être le problème. Il va respecter l'ordre de Dieu. Pourvu, bien sûr, que ce soit l'ordre de Dieu. Je ne parle pas de l'ordre que l'homme instaura et impose. Je parle de l'ordre qu'il voit dans la parole de Dieu. Ok ? Il dit ok. Ça ne lui pose pas de problème. Il respecte profondément l'ordre que Dieu a établi dans les choses. C'est quelqu'un qui ne va pas comptabiliser son travail pour faire valoir. L'habitude que nous avons aujourd'hui dans notre travail, c'est quoi ? Oh ! Moi, vous savez, j'ai fait ça. Et on vient le dire à ses collègues. Pourquoi ? Pour que les collègues disent « Ouais ! T'es le meilleur de nous tous ici !» L'humanité est arrivée à ça. On aime bien faire valoir notre travail. On aime bien compter tout ce qu'on a fait en bien pouvoir le dire aux gens. J'ai fait ça. Et aussi, on aime bien comptabiliser tout ce que les autres ont fait en erreur pour dire « Moi, j'ai fait ça. » Mais lui, là, il n'a pas fait ça. Donc, je suis meilleur que lui. Donc, lui mérite d'être viré, que moi, je prenne sa place. Un serviteur inutile n'a pas le temps de penser à tout ça. Dites-moi, qui est comme ça dans les hommes? Qui se comporte comme ça? Il n'y en a pas. Naturellement, il n'y en a pas. Aucun. Sauf un, le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans la Bible, il nous est dit que Jésus est Dieu. Il a quitté le trône. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens, ô Seigneur, pour faire ta volonté. C'est Dieu qui dit à Dieu, je vais faire ta volonté. Et Paul, ça c'est en hébreu, et Paul d'ajouter qu'il a pris une condition de serviteur, devenant comme un esclave, acceptant même le sacrifice de la mort sur la croix. Un seul est devenu un serviteur inutile aux yeux de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui nous montre l'exemple, c'est lui qui nous montre la ligne de conduite. Et c'est ce type de serviteur que la Bible recommande à l'Église. Notre mérite ne repose pas sur ce que nous faisons, mais sur deux choses. L'attitude de notre cœur et comment nous comprenons notre statut. Quand je parle d'attitude de corps, de cœur, je veux dire le fait que chacun de nous soit reconnaissant et reconnaisse aussi, qu'il reconnaisse que nous méritons tout de Dieu, tout vient du Seigneur. Nous, on n'a rien. Même l'énergie que j'ai pour travailler, ça vient de Dieu. Et donc, dans mon cœur, je suis reconnaissant à Dieu. Je reconnais que j'ai de la valeur, mais parce que Dieu me l'a accordé. Je reconnais ma valeur, mais parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donnée. Autrement, si dans mon cœur, je veux qu'on reconnaisse mes droits, qu'on reconnaisse ma valeur, qu'on reconnaisse mes qualités, qu'on reconnaisse que je suis bien, qu'on reconnaisse ci de ça, ça veut dire que je suis en train d'exiger. Je suis donc en train de faire valoir mes droits. Et quand je fais valoir mes droits, je suis dans l'orgueil. L'attitude du cœur doit être une attitude d'humilité. Le statut devant Dieu. Comment est-ce que je me prends devant Dieu? Il y a des gens qui sont tellement fiers de tout ce que Dieu a fait dans leur vie, de tout ce qu'ils sont devenus grâce à Dieu, et ça les amène à être orgueilleux, à se dire, moi, je peux te dire quelque chose parce que moi, je suis plus béni que toi. Vous n'avez jamais rencontré des gens pareils? Moi, je les rencontre tout le temps. Je les rencontre tout le temps. Je suis plus béni que toi, donc je peux te faire des leçons. J'ai réussi mieux ma vie chrétienne, donc je peux te faire des leçons. J'ai mieux éduqué mes enfants, donc je peux te faire la leçon. Ça, c'est quelqu'un qui met son statut en avant et croit qu'avec son statut, il est le meilleur. On tombe dans le piège de l'orgueil. Quel est notre statut devant Dieu? Nous sommes comme Jésus était lorsqu'il était sur la terre. Comment était-il? Il était au service de son Père comme un esclave volontaire. Beaucoup d'humilité. Serviteur inutile, ça veut dire quelqu'un qui ne se considère pas comme le plus important. Comme si son travail était le travail capital, fondamental, incontournable, le travail de Dieu, entre guillemets. C'est quelqu'un qui fait son petit travail, qui fait sa part avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'entrain, beaucoup de cœur, mais qui fait que son travail. Qui ne va pas prendre le travail de l'autre. Qui ne va pas commencer à critiquer, à surveiller, à superviser le travail des autres, mais qui fait sa part à lui. Et s'il a le temps, il peut aller aider les autres, mais pas passer son temps à faire son travail plus ou moins bien, ou parfois très très bien, mais passer le temps à regarder aussi aux autres et faire valoir son travail en disant « Je le vaux bien parce que je travaille bien. » Alors ce matin, tu veux servir le Seigneur? Commence par renoncer à tes droits. Nous, on a plein de droits, nous les chrétiens. C'est la raison pour laquelle on crie après Dieu quand on est malade et qu'on n'a pas de solution à notre problème. « Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Mais pourquoi je suis dans la misère? Pourquoi je souffre comme ça ?» Parce qu'on a des droits. On se dit qu'on a des droits devant Dieu. Nous avons des droits à réclamer à Dieu. Tu dois me répondre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, ça c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais Christ nous a montré l'exemple contraire. Il a renoncé à ses droits. C'était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est venu, il était simple. Même lorsque la foule s'est réunie pour lui faire roi, il se taille, il se barre. Ah, je ne veux pas ça. Renonce à tes droits et regarde, revois ton attitude de ton cœur, ta manière de marcher, dans la manière dont tu te considères devant Dieu, tu te considères devant les autres. Le Seigneur cherche des serviteurs humbles de cœur et d'attitude, des serviteurs comme Christ. Alors, pour terminer, juste une petite question. Comment peut-on devenir serviteur comme Jésus? Alors, voyez, ce texte commence avec le verset 7. En fait, en réalité, la parabole a été donnée par rapport à un fait qu'il y a eu précédemment. OK? C'est une parabole qui a été donnée par rapport à une situation qui s'est passée précédemment. Et c'est cette situation, c'est au départ de cette situation-là que Jésus va évoquer cette parabole. En fait, la discussion qu'il y a eu précédemment concerne tout ce qui va se passer dans la vie des chrétiens. Si je suis dans l'épreuve, si je suis dans le problème, comment je dois faire? Et là, Jésus commence à les exhorter. Il leur dit, écoutez, vous devez tenir. Par exemple, vous devez apprendre à vous pardonner, vous devez apprendre à vous aimer, à ne pas arrêter de vous pardonner, etc., etc. Et tout d'un coup, là, les disciples se rendent compte que, en fait, il faut beaucoup de foi pour faire tout ce que Jésus leur demande. Et donc, question des disciples, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus leur dit, ben écoutez, si vous aviez une toute petite foi, vous direz à la montagne, allez, pars, et la montagne s'en va. Et c'est là qu'il va donner cette parabole. Mais quel est le rapport entre cette parabole et tout ce que Jésus dit précédemment? Le lien, c'est la foi. Un serviteur inutile ne peut valablement être ce serviteur inutile que s'il a la foi en Dieu. Alors, de quelle foi on parle? On ne parle pas de la foi simplement comme un ensemble des choses que je crois, ou un truc comme ça. C'est la foi dans le sens d'une confiance totale en Dieu. Je m'investis comme serviteur inutile parce que je sais et j'ai confiance que celui en qui je m'investis est capable d'honorer ma vie. Moi, je m'abandonne entre ses mains, je n'ai plus rien, mais lui s'occupera de m'habiller, il s'occupera de répondre à mes prières, il s'occupera de me combler, il s'occupera de tout faire. Moi, je fais mon travail, mais lui me comblera en retour. Vous comprenez? Il faut la foi. Il faut confiance, il faut faire confiance à Dieu, croire qu'il va le faire. Parce que imaginez-vous, si vous devenez esclave volontaire de quelqu'un et que vous commencez à compter, zut, donc ça veut dire que je ne saurais plus manger, ben si je tombe malade, et si, et qu'on se dit, mais, vous voyez, mais là, c'est garanti. Je suis esclave volontaire, il s'occupe de moi. J'ai confiance. Il faut la foi. Mais il ne faut pas que la foi pour ça. Un serviteur inutile a besoin de la foi. Pourquoi aussi? Parce que la foi, c'est aussi une manière de se soumettre entièrement à quelqu'un. Je peux faire confiance à quelqu'un dans le sens que je suis disposé à faire tout ce qu'il me demande de faire. Je me soumets. J'obéis. D'ailleurs, la foi n'a pas de sens s'il n'y a pas l'obéissance en retour. Et si l'esclave volontaire que je suis fait confiance à Dieu et est disposé à lui obéir totalement, inconditionnellement, alors il sera ce serviteur inutile comme Christ l'était. Cette foi est une foi puissante qui devient alors un acte de confiance, d'abandon à Dieu, dans la confiance. Un bon serviteur ne s'appartient pas à lui-même. Le serviteur inutile ne s'appartient pas à lui-même. Il est une possession de Dieu. Il doit donc avoir confiance en ce Dieu qui prend soin de lui. Et la Bible est remplie d'exemples de tout ce que Dieu est capable de faire pour nous. N'est-ce pas? Il y a plein de promesses que Dieu dit sur nos vies. Mais il nous demande de les servir. Je vais terminer. Simplement pour dire que, souvenons-nous, servir Dieu, c'est loin de toute cette gloire, de tous ces honneurs, de tous ces tapis rouges, de tous ces privilèges. Servir Dieu, c'est loin de tout ça. Servir Dieu, c'est dans l'attitude qui consiste à s'abandonner entre les mains de Dieu, à obéir à Dieu, à lui faire confiance, à d'abord agir, à s'appauvrir devant lui, à se dénuder complètement devant lui, à se laisser complètement entre ses mains, en se disant, de toute façon, il est mon Dieu, il s'occupera du reste. Imaginez mes frères et sœurs, un serviteur de cet ordre-là dans cette église. Mais imaginez que nous soyons tous comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Croyez-vous qu'on va commencer à se battre encore entre nous? Croyez-vous qu'on va commencer à dire, ouais, t'as fait mon travail? Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'on aura le temps de se dire, au fait, moi, je fais comme ça, et toi, tu fais comme ça, ça va pas, ça, c'est quoi, ça va? Gaston, viens un peu trancher ici, parce que ça ne va pas. Il fout rien, lui, hein. Il est tout le temps en train de parler, lui. Enfin, heureusement, c'est moi qui parle aujourd'hui, donc je peux dire ça. Ça va, tout va bien. Je critique personne, alors. Hein, il est tout le temps en train de parler, lui. Il fout rien, il parle. Non. Le serviteur inutile va se concentrer à sa tâche. Et quand il aura terminé sa tâche, il va dire, ok, je l'ai fait. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait que mon travail. C'est tout. Je ne vais pas commencer à dire, c'est moi, je suis important, c'est moi. Non, non. Il va juste faire sa tâche. Et il va être content face à Dieu par rapport à ça. sa tâche. Je voulais que ce matin, ça soit une réflexion pour nous tous, qui nous interpelle. Le jour où on vous appellera pour servir dans l'Église, ayez cette attitude-là. Soyez cela. Pas seulement avoir, mais soyez. Soyez cette femme, cet homme, ce jeune, cette jeune fille, ce jeune homme, ce jeune garçon, etc., qui sert Dieu en ne se prenant pas de haut, qui sert Dieu dans le respect profond de Dieu, qui sert Dieu en ne considérant pas d'abord que lui il a des bonnes idées, qu'il peut contrôler tout le monde. Et si le Seigneur vous fait grâce et que vous êtes vraiment doué pour votre travail, priez encore deux fois plus pour que vous soyez humble. Parce que quand je suis doué, j'ai des compliments. Et si j'ai des compliments, l'orgueil arrive. Et l'orgueil, c'est la fin de tout. Et demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons capables de cela. Amen. Prions. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Seigneur, fais que cette exhortation à travers cette parabole que tu fais à tes disciples devienne une réalité que nous vivons, que nous devenons chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.